ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio.
Radio pleine lune, radio pirate des femmes.
Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio pleine lune, radio pirate des femmes. Sur FM de 101 à 104. Si les PTT brouillent l'émission, cherchez-nous plus loin entre 101 et 104 MHz.
Il fait froid, il fait froid. Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir.
Depuis plusieurs années, des femmes prostituées du monde entier ont commencé à lutter, à s'organiser pour défendre leurs conditions de travail. Voici quelques moments de cette lutte. En 1974, à Genève, les autorités introduisent un nouveau règlement qui interdit de se livrer à la prostitution sur la voie publique pendant la journée. 30 femmes prostituées font immédiatement recours au tribunal fédéral. Elles revendiquent le droit de travailler quand elles veulent et où elles veulent. Après une année de procès, elles gagnent, avec comme conséquence le remboursement de toutes les amendes que la police leur a infligées pendant l'année. En France, en juin 1975, 150 femmes prostituées occupent une église. Elles protestent contre les amendes et contre la répression policière. Ce mouvement se propage dans toute la France où plusieurs églises sont occupées. En juillet 1975, elles organisent les états généraux des femmes prostituées où des centaines de femmes prostituées de toute la France se réunissent. Elles protestent contre les amendes, contre les peines de prison, contre l'impossibilité de travailler à plusieurs. En Angleterre, en 1979, un groupe de femmes prostituées appelé le Plan, c'est-à-dire « Prostitute Laws are Nonsense », en français « Les lois sur la prostitution sont absurdes », menace de publier les noms de dizaines d'hommes politiques ou d'hommes d'église avec qui elles avaient eu des rapports si un projet de loi assouplissant le régime de la prostitution n'est pas voté. Deux jours après ces menaces, le projet est voté. En juin 1980, procès à Grenoble de 12 proxénètes, accusées par 5 prostituées. C'est la première fois en France que des prostituées se portent partie civile et accusent des souteneurs. En octobre 1980, un groupe de femmes prostituées françaises et suisses est reçu par le directeur de la division des droits de l'homme aux Nations Unies à Genève. Aujourd'hui, des femmes parlent de leur travail de prostituée à Genève. Est-ce que c'est un métier comme un autre?
Mais c'est un métier qui demande une fonction sexuelle, alors qu'un autre métier, il demande de taper 8 heures par jour dans un bureau. Moi, si je tape 8 heures par jour dans un bureau, j'ai plus envie de caresser un corps. J'ai envie, moi, de mon lit, puis de dormir tranquille. Au travail, en une heure par jour, eh ben, je suis pas fatiguée, je dispose de mon temps, de mon corps, de ma force, beaucoup plus que si je travaille dans un bureau ou dans un café ou n'importe où. Enfin...
Oui. Quant à moi, oui, moi je trouve que c'est un métier comme un autre dès le moment où on est des salariés. Dans un certain sens, on est des salariés. On fait un travail, on choisit. La seule différence, c'est les rythmes de travail. Bon, à la limite, un petit artisan qui a décidé qu'il allait produire, par exemple, qui produit des chaises et qui n'en produit que, je ne sais pas moi, une par jour, eh bien, il a fait un choix, au même titre que nous. À un certain niveau, on peut être proche de l'artisanat, c'est vrai, au niveau du choix des rythmes de travail. C'est vrai qu'à un certain niveau, on n'a plus le choix parce qu'il faut quand même avoir de l'argent pour survivre. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller à la Migros. Mais en dehors de ça, on a une certaine, bon, on a un certain choix, comme n'importe quel artisan. Voilà.
Je crois que la question avait été posée différemment. C'était sur les prostituées, pourquoi vous avez choisi ce métier? C'est bien ça. Bon, alors, pour mon compte, j'ai choisi ce métier pour la liberté. Parce qu'au lieu de travailler 8 heures à mon bureau comme je faisais pendant 20 ans, maintenant j'ai 40 ans, je travaille 3 heures et je gagne en 3 heures ce que je gagne en une semaine. Et je travaille 3 heures par semaine maximum. Non, d'abord, oui, je loue mon sexe, mais c'est pour moi moins astreignant que de travailler 8 heures dans un bureau, mais je ne tape pas la machine. J'ai un autre métier, mais c'est beaucoup moins prostitué. Disons que je me prostitue moins maintenant, dans le sens technique du terme, qu'auparavant. Avant, je travaillais 8 heures, j'étais très mal payée pour mon savoir, et je trouve que dans la prostitution, pour le temps... temps égale argent, la prostitution pour moi c'est la liberté, c'est tout. Voilà.
Oui, personnellement je suis d'accord avec toi. Le temps, bon, le temps c'est important puisqu'on vend du temps finalement. On vend surtout du temps et autant le vendre bon, le maximum. Je crois que la différence entre une secrétaire et nous, c'est que nous, nos patrons, ce sont tous les hommes qui viennent, ce sont. On a un patron après l'autre. Chaque fois, c'est un patron différent. Et chaque fois, on doit recréer l'accord. Mais bon, et je crois en plus que le prix s'explique à cause de la répression sexuelle générale qui fait qu'on est censé faire des choses que d'autres ne font pas. On est censé créer un type de rapport que d'autres ne font pas, qui reste d'ailleurs toujours des rapports, bon, des rapports très précis, qui restent quand même toujours des rapports d'une société bien précise, mais qui sont des palliatifs à une répression sexuelle, ce qui explique le prix, parce que c'est vrai qu'on demande généralement un quart d'heure ce qu'un type a pu mettre une journée à gagner. Et c'est assez inexplicable qu'un type nous donne autant d'argent pour un si court laps de temps. Ça ne peut s'expliquer que parce qu'il n'y a que chez nous qui peut obtenir ce qu'il ne peut pas obtenir ailleurs.
On dit toujours être prostituée, c'est un travail peut-être dur, mais au moins c'est bien payé, au moins on gagne bien. Et puis des fois je me demande, peut-être c'est pas vrai, est-ce qu'on pourrait peut-être pour ce travail demander encore plus?
Moi je trouve que pour le client, je dis un exemple, le barème type c'est 100 francs suisses. Alors pour un client payer 100 francs à la barbe de sa femme, à l'insu de sa femme, c'est beaucoup, mais pour nous, je ne sais pas si vous comprenez, donner 100 corps pour 100 francs, c'est peu.
On donne par le loup.
On loue.
Tu donnes ton temps.
Oui, ou le temps. Mais 100 corps en même temps.
Tu pour 100 francs. Tout ton corps, il est à toi. Tu
mais oui, d'accord, mais on le prête. On le prête ou on loue, ça dépend des termes. Ça
tu l'utilises.
Ça n'a aucune importance. Mais les termes, ça n'a aucune importance. Mais je dis, ce qu'on fait, c'est peu payé. Que ton poste qui nous donne 100 francs, simplement on a l'habitude et puis on se désincarne, on n'y pense pas. Puis voilà.
Ça dépend les clients. Il y a des clients qui sont extrêmement faciles et agréables, il y en a qui sont tellement pénibles que c'est épouvantable. Que moi, à tel point qu'on plaint leur femme, on se dit, mais on comprend qu'elles ne veuillent pas faire le travail qu'on est obligé de se taper pour 100 francs ou même pour un peu moins. Hein, suivant là. Il faut aussi dire que l'âge de la prostituée joue un rôle. Parce qu'une jeune femme de 25 ans ou une autre de 50 ou de 60 ans ou même plus, elle ne va pas gagner la même chose pour le même travail. Absolument. Parce que la jeunesse, la beauté, la fraîcheur, quand même, ça se paye.
Et les bons hommes, on est des bêtes à plaisir. Hein? Alors si tout doit commencer à penser, mais quel scandale, on pourrait les juger.
Mais nos clients ne nous prennent pas pour des bêtes.
Oh, bah, avec nos YouTube.
Oh oui, qui nous prennent pour des bêtes. Ils nous prennent pour des objets qui viennent baiser.
Ah, mais parce que tout dépend le rapport que tu as. Tout
mais tu peux avoir le meilleur rapport que tu veux. Et je peux t'assurer que tu peux en rajouter autant que tu veux. Ils viennent là. Notre fonction, c'est d'être payé pour qu'ils viennent éjaculer. C'est notre fonction. À partir de là, tu peux broder autour, mais notre vraie fonction, absolument, c'est d'être un trou avant le reste, d'être le reste. Absolument. Alors, tout le reste, c'est du gna-gna-gna. C'est toi qui as envie de te justifier vis-à-vis de toi-même en ayant un comportement où on te dit, mais non, on ne prend pas pour un objet. Bon, on vient seulement chez moi pour baiser, mais ce n'est pas suffisant. Moi, tout le reste... Je crois que quand on parle d'honnêteté, il faut savoir comment... Nous, on gagne, j'estime qu'on est des salariés. On remplit une fonction, on vend un service, c'est tout. On vend le type qui vient chez nous, il nous offre... On se met d'accord d'avance. Bon, il nous offre une certaine somme pour tel et tel service. Donc, c'est un rapport clair et honnête. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Je parle de certains, je ne sais pas, moi, des types qui détiennent des grandes boîtes, qui font des investissements frauduleux, qui achètent des armes et qui les revendent à des pays où ce n'est pas permis, par exemple. Ça... Ceux-là, par contre, ils ont toute l'honorabilité de tout le monde parce qu'ils ont un compte en banque bien garni. Mais bon, nous, par contre, j'estime, on est parfaitement honnête dans ce qu'on fait, il faut le dire.
Absolument.
On n'existerait pas sans nos clients, c'est ça qui est le plus important. C'est les clients.
On l'est devenu.
C'est les clients qui font la demande. Nous, on est une conséquence d'un besoin. Absolument. Et par conséquent, ce qu'on fait est parfaitement honnête.
Cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai fait à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard.
Mais en général, vous parlez toujours des hommes et femmes, etc. Donc, c'est des hommes mariés, quoi. C'est vraiment... Oui, la prostitution, c'est le côté rue du mariage.
C'est la troisième béquille.
C'est le troisième pilier.
Oui, parce que on est à peu près d'accord, je crois, pour dire que la majorité de nos clients sont des hommes mariés. Oui, et que, d'ailleurs, les autres, ils ont le temps de draguer. Puis, ils ne viennent pas spécialement...
Là, maintenant, les femmes, elles ont droit au plaisir, elles veulent du plaisir. Et puis, si leurs maris s'y prennent mal, ben, elles ne veulent plus, je pense. J'imagine, je ne sais pas. Alors, moi, je pense que les clients sont souvent dépassés par les événements. Parce qu'il y a certains qui me disent que leur femme ne veut pas faire l'amour, enfin bref. Et puis, la façon dont ils s'y prennent aussi bestialement, moi, je les comprends, les pauvres femmes.
En ce moment, on parle énormément de supprimer la prostitution dans toute l'Europe sous prétexte que ça serait un esclavage. Or, premièrement, ça n'est pas un esclavage pour tout le monde. Deuxièmement, quand on voit les femmes mariées qui ne jouissent même pas avec leur mari et qui font le ménage et en plus qui travaillent, qui élèvent des gosses, alors moi je me demande où est l'esclavage. Parce que nous, on n'a pas de mari sur le dos, on a éventuellement un amant ou un amour, enfin si ça nous arrange, si on a envie d'en avoir un, si on n'a pas envie d'en avoir un, on n'en a pas. Et on est libre de notre temps, libre de nos horaires, libre de disposer de l'argent qu'on gagne, libre de, même de ne pas en gagner du tout pendant un certain temps, si on peut se le permettre. Alors que les femmes dites honnêtes et mariées, moi je trouve qu'elles sont beaucoup plus esclaves que nous. À moins qu'elles soient vraiment heureuses, ce qui est merveilleux, alors là, vraiment, je les approuve. Mais je crois qu'il y en a malheureusement assez peu qui sont vraiment heureuses. Elles s'imaginent qu'elles ne peuvent pas vivre autrement, qu'il faut être honnête à tout prix, il faut se marier à tout prix, il faut avoir des gosses à tout prix. Et moi, je pense que peut-être qu'elles sont beaucoup plus esclaves que nous, sans le savoir. Ce sont des femmes qui n'ont pas été éduquées pour avoir du plaisir sexuel et pour avoir des jouissances sexuelles. Elles ont été
éduquées pour en donner.
Oui, mais ça, c'est encore différent. Il y a certaines femmes qui sont totalement bloquées. Des femmes de 40, 50 ans qui sont totalement bloquées et je crois malheureusement qu'elles se débloqueront jamais. Parce qu'on les a éduquées dans l'optique unique de se marier avec un homme qui assume les frais du ménage, de faire des enfants, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper peut-être du jardin, du ménage, de la vaisselle, de la lessive, mais on ne leur a jamais dit de s'occuper de leur corps et du corps de leur mari. Ça, c'est une chose qu'on ne leur a jamais apprise, on n'en a même pas parlé. Et moi, je sais par certains de mes clients qui sont même amoureux de leur femme, mais enfin, ils savent que c'est sans espoir. Et moi, j'en ai sauvé un du suicide il y a quelques années, que je connaissais d'ailleurs d'avant, qui m'a dit, quand je t'ai rencontré ce jour-là, j'avais vraiment décidé de me foutre en l'air. Parce que ma femme, elle a ton âge, elle n'a jamais, plus jamais voulu faire l'amour avec moi, parce qu'elle dit que c'est inutile, c'est sale, ça ne se fait pas, ça lui rapporte aucun plaisir. Du moment que nous avons deux ou trois gosses, je ne sais plus, que ces gosses sont adolescents, bientôt adultes, elle ne voit pas pourquoi elle serait obligée de faire l'amour quand ça ne lui plaît pas, qu'elle n'y voit aucun intérêt pour elle. Mais par contre, elle est jalouse. Elle ne veut pas que son mari aille prendre du plaisir ailleurs. C'est là où ça se gâte. Alors le mari, non seulement n'a aucun plaisir avec sa femme, non seulement il lui en a jamais donné parce qu'elle ne veut pas, mais encore, il est obligé d'aller baiser en cachette, en se culpabilisant, en se disant, si ma femme le savait, elle ferait une scène épouvantable. Enfin, et en plus, il paye, donc ça détourne un peu de l'argent du ménage. Alors ces hommes, le pire, à mon avis, c'est la culpabilité épouvantable qui traîne avec eux. Parce qu'ils savent qu'avec leur femme, ils n'auront pas de rapport sexuel épanouissant, parce que c'est pas possible, c'est plus possible, c'est trop tard. Mais encore, ils peuvent même pas avoir des rapports sexuels tout à fait épanouissants avec nous, parce qu'ils traînent toujours cette culpabilité. Alors, moi, je trouve ça quand même épouvantable.
Mais moi, je trouve qu'il ne faut comme pas être indulgent avec les bons hommes, parce que moi, je trouve que c'est facile. Un bonhomme, il fasse l'amour n'importe comment, il arrive à sa jouissance, ça veut dire éjaculation. Quelques frottements, que ce soit de la main.
Non, attention, pas tous les hommes éjaculent.
Ah, non. Mais la majeure partie, en tout cas, quand il paye, il s'arrange toujours pour jouir. Hein? Eh bien, moi, il y en a qui me disent, c'est pas que ma femme, elle veut pas, je m'entends très bien avec ma femme, mais tout autant, j'aime bien changer de viande, voilà, carrément, ils me disent comme ça. Oui, j'aime bien changer de viande.
Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est, bon, disons, je pense, de façon générale, quand un homme vient nous voir, ce n'est pas pour notre jouissance à nous, parce que de façon générale, une femme, une prostituée, et c'est même plus ou moins une loi du milieu, ne jouit jamais. Donc, s'ils viennent nous voir, c'est pour notre fonction, c'est-à-dire pour qu'on leur permette, les autorise, eux, à jouir. On leur donne les conditions nécessaires. Donc, à la limite, les rapports, la question du rapport qu'il y a entre eux et nous, ce n'est pas eux qui nous donnent, mais c'est eux qui viennent nous prendre quelque chose, eux qui viennent mettre quelque chose. Je veux dire, par là, ils ne s'intéressent pas au rapport homme-femme, ils s'intéressent à la fonction qu'on peut leur vendre. Et ça, je pense, c'est important à dire quand même.
Mais on dit que les prostituées sont très très différentes les unes des autres, mais il faut dire aussi parmi les clients, il y a d'énormes différences. Parce qu'il faut voir si un client est veuf, ou si c'est un vieux garçon refoulé, ou si c'est un mari insatisfait, ou s'il a des angoisses sur sa virilité parce qu'il prend de l'âge et il a peur de devenir impuissant, de plus pouvoir faire l'amour. Enfin, les clients, ils ont quand même des problèmes très très personnels, hein. Et par exemple, moi, parmi les clients que j'ai, donc j'ai 50 ans passés, parmi les clients que j'ai, j'en ai de plusieurs âges, de plusieurs races, de plusieurs classes sociales, mais j'en ai quand même quelques-uns qui, ayant de mauvais rapports avec leur femme, et comme moi, j'ai peut-être le même âge que leur femme, ils viennent chez moi pour essayer de trouver ce qu'ils n'ont pas chez eux. C'est-à-dire que je suis obligée, moi, de leur jouer la comédie, pour leur faire plaisir et pour que ça marche mieux et plus vite, parce que je vais quand même pas perdre des heures et des journées entières, je suis obligée de leur jouer la comédie d'une certaine jouissance sexuelle, d'une certaine tendresse. Et même si je sens, disons, une certaine connivence avec leurs problèmes, je peux pas du tout dire que j'en suis amoureuse, je le serai jamais. Mais pour leur faire plaisir et pour que ça marche un peu mieux et plus vite, je leur joue une certaine comédie de la tendresse, de l'affection et même de la jouissance sexuelle. Je fais semblant de jouir parce que eux, ça les aide. Comme leur femme ne jouit jamais, qu'elle ne jouira plus et qu'elle jouira pas parce qu'elle a jamais pu, eh bien moi, je dois faire semblant pour les mettre à l'aise, pour augmenter leur jouissance, peut-être pour les déculpabiliser quand même de temps en temps. Parce qu'il faut voir que dans les couples, il y a d'énormes problèmes, souvent. Et si nous n'existions pas, je ne sais pas ce que feraient ces malheureux, moi. Et je ne sais pas ce que font leurs femmes, non plus. Vraiment, je me pose des questions. Hein.
Il faudra interroger leurs femmes, peut-être, parce que ce n'est pas toujours aussi rose que les clients veulent leur dire. De toute façon, les clients, s'ils viennent vers nous, ils justifient. Oh, ma femme, elle n'aime pas ci, ma femme, elle ne s'est pas baisée, ma femme, elle n'a jamais fait un pompier. Oh, ma femme, c'est tac, 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 puis elle court à la salle de bain se laver. Leurs femmes, c'est les bourreaux, quand tu les entends, c'est des pauvres petits chéris. On veut pas de leurs grosses caquettes ou de leurs petites caquettes. Alors, c'est facile. De toute façon, ils payent pour se déculpabiliser, et puis ils veulent pas. Ils payent pour se culpabiliser et puis ils veulent pas se sentir culpabilisés. Alors ils se justifient. Ma femme n'aime pas ci, ma femme n'aime pas ça. Elle aime pas faire l'amour, mais c'est facile. Mais il faudrait entendre leur femme. Moi, je vais te dire, j'ai un client. Non, ne m'interromps pas, ne m'interromps pas. Je vais te dire, j'ai un client qui venait vers moi depuis que j'étais à Genève. Puis tout le temps, ma femme n'aime pas ci, ma femme n'aime pas ça et tout ce qui s'ensuit. Et puis je dis, ben, le fais jamais. Aussi, de temps en temps, pour me faire plaisir. Et puis alors, il m'explique un jour qu'il arrive, il me dit, oh, j'ai essayé de la caresser, et puis une fois, elle s'est un petit peu glacée. Alors je dis, comment tu la caresses? Il me dit, je la caresse un petit peu, machin, et puis après, ben, je grimpe, hein. Puis je dis, oh, c'est tout. Mais je dis, ben, c'est pas étonnant. Et puis je lui ai dit, puis alors qu'est-ce que t'as fait quand elle s'est un petit peu durcie? Il m'a dit, je suis partie en claquant la porte, puis je dis, je vais aux putes. Puis je dis, puis t'as pas honte, hein? Il m'a dit, je m'en fous, elle m'a poussé au bout. Et puis je dis, mais si tu l'achetais des fleurs de temps en temps? Ah, il m'a dit, mais ça me coûte de l'argent. Et moi, je dis, mais moi, je te coûte de l'argent. Il m'a dit, mais avec toi, c'est sûr que j'ai ce que je veux. Alors, ça veut tout dire, tu vois.
Moi, je trouve important ce que tu viens de dire, dans le sens où, effectivement, ayant vu des femmes à plusieurs, enfin, ayant eu beaucoup de discussions avec les femmes, je pense aussi que c'est très important, effectivement, de voir que la relation entre hommes et femmes, elle n'est pas évidente. Mmh. Et que si elle n'est déjà pas évidente dans la société en général, elle l'est encore moins dans les relations sexuelles, absolument, qui sont généralement une photo de ce que sont les relations de la société. Et puis que c'est vrai que si les gens ils s'entendent déjà pas au niveau de la société, ils s'entendent souvent encore moins dans un lit, qu'une femme a quand même une sexualité assez subtile et qui est généralement assez différente de la sexualité masculine, alors que le modèle présenté en général, c'est le modèle masculin, il faut pénétrer, la jouissance c'est quand l'homme a éjaculé, une femme c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre personnalité, c'est une autre sexualité, et effectivement jusqu'à présent on n'en a même jamais discuté. Alors tant qu'on n'en discute pas, eh bien forcément les hommes, bon, ben, leur jouissance elle est relativement facile, elle est proche de la masturbation, c'est un trou, c'est la bouche, c'est n'importe quoi, c'est la main. Elle est plus facile, certainement, à un certain niveau qu'une jouissance de femme. Donc, effectivement, c'est encore entre les deux, c'est quand même eux qui sont le moins lésés. Et c'est en tout cas les seuls qui peuvent se permettre d'acheter aussi facilement ce pourquoi nous, on doit lutter. Parce que en l'achetant, on ne l'obtient pas de façon satisfaisante.
Je discute des fois avec des femmes chez mon coiffeur qui me disent qu'en 40-50 ans, qu'elles n'ont jamais eu de plaisir. Elles me disent, mais moi, de temps en temps, j'étais vaguement excitée. Mais tout d'un coup, lui, il est en érection, c'était lui qui comptait, parce que s'il ne portait pas à ce moment-là, ça n'allait plus. Alors, il la caressait ou il l'excitait, je ne sais pas comment, parce qu'il m'a raconté ça très simplement. Et puis, quand lui, c'est important, ben lui, voilà, il grimpe, il plante.
Ces hommes qui viennent, est-ce qu'ils n'expriment pas aussi une sexualité misérable?
Je pense que tu as parfaitement raison, parce qu'ils ne viennent pas comme ça, sans nous demander d'explications. On est dehors, ils nous disent, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça, comment, comme ci, comme ça. Ah bon, alors ça ne va pas, ah oui, ça va, d'accord, on y va. Hein, mais moi, je pense que la société aussi est responsable, responsable entre guillemets, je pense, mais moi, je pense en tant que lesbienne, hein, puisque je ne suis pas hétéro. Hein, moi, je pense objectivement que la société est responsable, ou l'éducation sexuelle, ou les tabous, est responsable de leur comportement en général. Mm-hmm. Parce que de quoi est faite la sexualité d'un homme? Hein, quelques mentis au bordel. Ce n'est pas avec nous qu'ils peuvent apprendre à faire l'amour, on n'a aucun sentiment pour eux. La plupart du temps, on ne peut pas avoir du plaisir avec eux, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas avec nous qu'ils veulent apprendre à faire l'amour. Avec nous, ils apprennent déjà, ça veut dire un pompier, baiser ou ci, cela. Et puis voilà. Alors, ils apprennent comment, eux, à faire l'amour.
Des choses tordues, non, c'est pas non. Vrai. Aucun... La plupart, parce qu'on dit les prostituées, on est des salopes, on est des tordues, c'est pas vrai. Moi, je sais que des vicieuses ou comme ça, c'est pas vrai. C'est tout simple. C'est tout simple, il y a des choses vraiment tout simples.
Ce qu'ils nous demandent, c'est de les sucer un peu pour parler crûment et puis de baiser, voilà.
Ça dépend, on peut pas généraliser le client. Il y a des clients qui sont extrêmement machos, qui sont des hommes qui plantent un point, c'est tout, et d'autres qui ont besoin d'autre chose, qui ont besoin de tendresse et qui ont marre d'avoir ce rôle de mère qu'il faut absolument.
T'es d'accord qu'on vend un acte technique. On vend un acte technique, qu'on fasse un. On fait ce que bon, ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Et surtout, en fait, ce qu'ils ont envie à un moment précis. Voilà, c'est-à-dire que quand ils nous payent, ils nous disent, voilà, je veux ça. Ouais. Et ils nous payent pour cette fonction-là. Et à mon avis, je veux dire, dans le rapport, personnellement, ce qui me dérange, personnellement, c'est qu'effectivement, en payant, en sortant de l'argent, premièrement, ils se déculpabilisent de le faire vis-à-vis de nous, puisqu'ils estiment être en droit, à partir du moment où ils nous ont payé, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils n'oseraient pas demander à d'autres. Donc c'est l'argent qui leur autorise de faire ça, qui est le passe-partout. Et deuxièmement, bon, c'est que acheter, c'est toujours facile. C'est beaucoup plus facile d'acheter un rapport que de le tisser à long terme. Et personnellement, effectivement, c'est ce qui me dérange le plus. Ils ne feront pas l'effort pour le tisser parce qu'ils peuvent l'acheter.
Voilà. Voilà.
Est-ce que vous avez parfois affaire à des couples?
Ben, moi, je vais te dire un truc. Excuse. La seule fois où ça m'est arrivé, eh bien, le client, il m'a dit, écoute, j'ai ma femme, elle veut tout pressayer. Et puis moi, je dis, c'est elle ou c'est toi? Hein? Il m'a dit, c'est elle et puis aussi moi. Hein? Alors, j'ai dit, alors il m'a dit, je te donne 500 francs ou je te la laisse. Alors, je dis, bon, il m'a montré une photo. Moi, je me suis dit, pourquoi pas? C'est un moment où j'étais célibataire. Alors, il me l'amène. Après, elle a dit, oh, je reste ou pas? Elle avait la trouille de moi. Elle a dit, non, reste. Puis je lui fais du coup, puis je lui dis, mais non, va-t'en, moi, je m'occuperai de ta femme. Puis je l'ai mis carrément à la porte. Puis moi, je dis, alors, c'était lui ou c'était vous? Elle m'a dit, c'était lui. Et puis je dis, puis vous avez envie de moi? Elle m'a dit, bah, effectivement, j'ai envie de faire une expérience homosexuelle, mais pas comme ça. C'est lui qui programme, je suis à la limite programmée par lui, enfin bref. Alors, je dis, bon, on lui dit rien. Et puis on fait comme si on avait fait l'amour. Je dis, je vous dis nettement, il m'a donné 500 francs, je vous donne 250.
Hein? Ça, c'est génial.
Je lui ai donné, mais je dis, vous n'allez pas vendre la mèche. Et puis je pense à la vendre la mèche ou pas.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seule chez votre papa, devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats, levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile, vous le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, soyez radeuse, avenue du bois, mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Un homme gêné rentré trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face de rat friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas, les filles, vous mariez pas.
Quels sont les problèmes des femmes prostituées en Suisse et à Genève?
Je pense qu'il y a des problèmes, bon, enfin, il y a des problèmes d'abord d'ordre psychologique qui sont l'isolement des filles, ça c'est un problème international, l'isolement au point de vue social, l'isolement au point de vue moral. Dès qu'on dit qu'on est prostituée, il y a une méfiance, on est mis au banc de la société, on est considéré de façon générale comme des moins que rien. Bon, d'un point de vue de l'État, il y a le fait qu'on est, obligé de se déclarer, de payer des impôts, que notre profession, elle est. Elle est reconnue dès le moment où on doit payer des impôts, mais que par contre, elle n'existe pas en tant que profession. Et ça, c'est un problème. Ce sont des histoires de subtilité, mais qui ont certainement des conséquences assez importantes au niveau juridique. Et le jour où on veut nous le sortir, on veut l'utiliser contre nous, on l'utilisera certainement. Maintenant, il y a l'autre problème, donc, qui est le certificat de bonne vie et mœurs. Le fait qu'on ne peut pas l'obtenir, comme d'ailleurs d'autres groupes, comme les homosexuels et autres, tous ceux qui sont, entre guillemets, marginaux à la société ne peuvent pas l'obtenir. Alors, ce n'est pas un problème tant qu'on exerce la profession. C'est un problème le jour où on arrête, ou pour une raison ou une autre, on a envie de changer de métier. N'importe qui, n'importe quel individu, ayant une activité professionnelle a le droit de changer de société de façon normale, alors que nous on a des difficultés. on a des difficultés, sauf si on va dans des entreprises privées et autres. Mais dès qu'on veut travailler à l'État ou travailler dans des entreprises qui demandent le certificat de bonne vie et mœurs, ben, c'est impossible pendant 5 ans.
5 ans après avoir arrêté.
3 ans maintenant.
3 ans, voilà,
c'est maintenant 3 ans. C'est maintenant
3
ans.
Bon, puis en plus, un problème. Donc, pour ouvrir un bar, je crois qu'il y a un problème. Il faut attendre la... C'est pas possible. Enfin, pour ouvrir généralement... Pour avoir une activité publique après, c'est pratiquement impossible.
C'était de savoir si les problèmes étaient pareils en Suisse et en France. Alors, en fait, c'est pas du tout pareil, puisqu'en France, elles n'ont pas le droit de se prostituer librement. Enfin, elles ont soi-disant le droit de se prostituer. Il faut que ça ne se voit pas, que ça ne se sache pas. Et il faut qu'elles soient nulle part. Elles peuvent se prostituer, mais elles doivent être invisibles. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on avait parlé en France. Enfin, ils avaient sauté sur l'occasion pour proposer l'ouverture d'Eros Santerre en disant, puisque ces prostituées vous choquent, puisqu'elles encombrent, elles salissent les rues, puisque les clients n'ont pas la discrétion voulue, et puis que, d'autre part, elles provoquent la débauche, alors qu'en fait, elles ne provoquent rien du tout, puisqu'elles sont là pour répondre à un état de fait. C'est-à-dire que, du moment qu'il y a des clients, il y a des prostituées, on ne peut pas les escamoter, pas plus qu'on peut escamoter les clients. Alors, personnellement, en tant que Suissesse, enfin, soi-disant Suissesse, moi, je me sens tout à fait marginale de la Suisse et de tous les pays. J'étais allée aussi avec une amie qui est là pour soutenir les Françaises dans leur refus des Eros Santerre. Et je crois que ça, c'est pas seulement la France, mais c'est un peu dans tous les pays. Les femmes n'ont pas du tout envie de se voir enfermées. Déjà, nous n'avons pas tellement envie de nous voir méprisées, mais en plus enfermés dans des espèces d'usines à sexe ou qui ressembleraient à des prisons ou à des bagnes. Ça, je crois qu'aucune femme serait enchantée de cet état de choses, à part certaines femmes qui n'ont peut-être pas compris exactement de quoi il s'agissait, parce que personnellement, enfin, je ne vais pas parler trop longtemps, mais même ici à Genève, j'ai demandé à des femmes « Qu'est-ce que vous pensez des Eros Santerre ?» Et il y en a quand même quelques-unes qui m'ont répondu, en général des femmes un peu plus âgées encore que moi, qui m'ont dit « Ah mais nous les Eros Santerre, on irait tout de suite. » Parce que les malheureuses, elles s'imaginent qu'elles vont être bien dedans. Parce qu'elles ressentent souvent comme une telle blessure, le mépris qu'elles lisent dans les yeux des gens quand elles se trouvent sur la rue en train d'attendre le client, qu'elles s'imaginent que dans un Eros Santerre, elles seraient à l'abri de ce mépris. Seulement elles ne se rendent pas compte du fait qu'elles n'auront plus de liberté, qu'il y aura des règlements, des horaires, des loyers exorbitants, et puis toutes sortes de conventions qui vont leur coûter très cher. C'est-à-dire que je sais par des femmes qui ont travaillé en Eros Santerre en Allemagne, par exemple, par des Françaises qui ont cru bien faire d'aller là-bas en se disant « on va échapper à toutes les contraintes et tous les règlements, toutes les contraventions qu'on a quotidiennement en France, on va pouvoir travailler tranquille, faire de l'argent et arrêter plus vite ». Eh bien, c'était tout le contraire, parce que vous arrivez dans un Eros Santerre, on vous demande déjà une énorme caution. Ensuite de quoi, vous devez travailler absolument déjà pour payer 100 ou 200 francs de loyer par jour, plus les serviettes, enfin tout ce qu'il faut, les savons, la nourriture, le coiffeur, enfin tout vous est comptabilisé au fur et à mesure. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être un jour malade ou absente, parce que le loyer et les frais courent. Et si vous perdez votre chambre, vous ne la retrouvez plus, on vous dira « Madame, c'est occupé, bon ». Eh bien, vous revenez quand ça sera libre, et à ce moment-là même, encore, vous perdez votre caution. Alors, vous voyez que ça représente de telles contraintes que ça devient une exploitation ignoble. Alors, je crois qu'un Eros Santerre, éventuellement, ça sera encore pire que tout.
Les femmes prostituées sont fichées à la police, c'est-à-dire qu'elles doivent donner leur nom, leurs photos, leurs empreintes. Pourquoi ?
Moi, personnellement, lorsque j'ai demandé aux agents de police, aux flics, pourquoi est-ce qu'on était photographié de face de profil, on avait nos empreintes marquées. On m'a dit simplement que lorsqu'il y avait, vous étiez assassiné, on pourrait savoir qui vous êtes, c'est tout. Et c'était la seule condition, et c'est la seule, disons, la seule réponse qu'on m'a donnée. On ne m'a pas dit c'était pour vous ficher, c'est pour si, c'est pour ça. On m'a simplement dit si un jour vous êtes assassiné, on saura qui vous êtes, c'est
moi,
tout.
On a fait une autre réponse. On m'a fait une autre réponse, on m'a dit ceci. Au moment où le client se plaint, par exemple, qu'on lui a volé son portefeuille ou qu'on lui a pris de l'argent ou sa montre ou quoi que ce soit, eh bien, à ce moment-là, on peut retrouver, d'après les empreintes ou d'après la photo, qui c'est.
Ça veut dire qu'on est déjà délinquante. Ça veut dire qu'une pute, elle a forcément piqué ses michetons.
Alors que, par exemple, une épicière, qui pourrait, à la limite aussi, faire le porte-monnaie des clients, pourquoi pas? Eh bien, une épicière, elle n'a pas besoin de donner ses empreintes. Elle n'est pas délinquante d'office, tandis que nous, oui.
Non plus.
On m'a donné la même réponse qu'à toi en me disant, c'est important, en cas de meurtre, on a des pistes. Toujours est-il que toutes les prostituées qui... De le fichage. Moi, à ma connaissance, toutes les prostituées qui se sont fait tuer ces dernières années, on n'a jamais retrouvé les meurtriers. Donc, ce type d'argument, il ne tombe pas, parce que de toute façon, nos meurtriers ne les intéressent pas spécialement. On n'est pas des présidents de la République, ils ne vont pas investir d'argent pour faire une enquête. Donc, de toute façon, ce genre d'argument n'est pas un argument sérieux.
Parce que qui dit prostituée, qui dit fréquente un certain milieu, et pour eux, ça leur fait des pistes. Voilà, c'est une histoire d'assassinat, etc. Voilà, ben voilà.
Puisque je voulais dire, on ne subit pas beaucoup de répression policière, mais de temps en temps, les flics, ils essayent de maintenir plus ou moins nous, certains, de la façon dont on dialogue avec nous, on est, de toute façon, on est des putes, il ne faut pas qu'on soit des illusions, on ne sera jamais des femmes honorables. Et puis, certains flics, quand ils nous causent, ils maintiennent un petit peu ce rapport, ou nous faire croire à nous, inconsciemment, qu'on est d'une certaine façon, ou qu'on le veuille ou non, des marginales, des délinquantes, qu'on n'est que des putes, et puis voilà. Et puis ils essayent, en tout cas, au départ, quand on n'est pas très connu, de nous utiliser comme petit indicateur. Ça veut dire, est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu crois pas qu'avec une telle? Est-ce que tu crois pas que le nion qu'une telle a pris sur la gueule, c'est son jeune qui lui l'a filé? Des trucs comme ça. Ça veut dire qu'au début, ils essayent plus ou moins de nous dévaloriser pour que nous, on ait envie de se racheter. Ça veut dire de racheter notre sentiment de culpabilité. Hein? Mais, oh, je te demande bien pardon.
Attention.
Consciemment ou pas, c'est très subtil.
Là, on généralise encore une fois. Les flics, les flics savent très bien à qui ils s'adressent pour demander des informations. Ils savent très bien à qui ils s'adressent en disant, écoute, voilà, tu es une pute. Et ils te tutoient. Ils te disent, c'est une pute, maintenant, tu seras sale. Moi non plus, on ne me l'a jamais dit. Et un flic s'est toujours très bien comporté avec moi, toujours été très poli. Les flics m'ont toujours vouvoyé, ils ne m'ont jamais demandé une indication. Ils
savent très bien.
De mon passé et de la personne.
Parce que moi, personnellement, les flics m'ont dit on préfère un Mac qui parle à une fille qui se tait. Ça voulait dire, s'il faut protéger un des deux, on préfère protéger le Mac qui collabore à la fille. Mmh. Et ça, c'est un truc quand même important. Il est vrai qu'à Genève, il n'existe pas de milieu du même style que le milieu lyonnais, par exemple. Donc, il y a moins de liaison entre ce qu'on appellerait le milieu. Je veux dire, quand il y a bien un milieu, mais ce sont des financiers, des escrocs, qui font des trucs au niveau international, qui se ramassent des millions et qui n'ont pas besoin de passer par nous, et qui, eux, sont en toute l'honorabilité de la société. Mais le milieu à proprement parler, tel qu'on l'entend généralement, il n'existe pas. Donc, forcément, notre collaboration, elle est plus restreinte, il faut aussi le dire.
Les flics vont aussi chez les prostituées comme clients.
Les flics, moi j'en fais les flics comme clients.
Ah, ça c'est très bien.
Ah, moi je fais un ecclésiastique et puis je fais un juge informateur de Lausanne. Et puis, attends, je fais un juge informateur de Lausanne, je fais un préfet de Lausanne. Et puis, attends, qu'est-ce que je fais encore à Genève? Un magistrat, mais je ne sais plus dans quelle branche. Mais un ecclésiastique, c'est un super masochiste, un répugnant personnage. Et puis, ils ont beaucoup d'argent, hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, parce que les fantasmes qui se payent. Hein.
Ceci dit, je voulais parler d'une autre discrimination qui touche spécialement les femmes qui travaillent dans des appartements. Bon, à part quelques coins bien précis de la ville qui sont connus pour ça, pour recevoir des prostituées et des clientes, je crois que c'est assez général. Les femmes qui ouvrent, comme moi, par exemple, des salons dits de relax détente, elles ont généralement très rapidement des problèmes avec leur régie. Ou à moins d'avoir un bail d'avance où il est établi qu'elles vont s'adonner à ce commerce, bail pour lequel elles vont devoir payer des prix fous pour des appartements, des petits appartements. En dehors de ça, généralement, on a très vite des histoires. Enfin, on est très vite au tribunal. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été obligées de déménager, de chercher ailleurs, qui sont obligées de continuellement déménager chaque
fois. Agir maintenant, c'est d'avoir que des prostituées puissent prendre les appartements qu'elles veulent, où elles veulent, et pouvoir exercer le métier dans l'appartement qu'elles ont choisi, et de ne pas être dans des ghettos. Parce qu'actuellement, à Genève, je crois que c'est partout en Suisse, ce sont des ghettos. Il y a des quartiers spécialisés et des immeubles spécialisé pour la prostitution. Moi, j'ai un studio de travail qui est donc dans un immeuble qui est réservé uniquement pour la prostitution. Il n'y a pas d'autres studios, ou très peu, qui sont loués peut-être pour des artistes de variété. Mais ce sont des immeubles qui sont uniquement réservés pour ça. Je ne pourrais pas faire exercer mon métier dans mon appartement privé. Ce ne serait pas possible. C'est beaucoup trop bourgeois. Dépend, je pense pas pour tu parles pour l'appartement privé là. Donc là, si tu as un appartement privé, que tu mets. Alors, le studio de travail, c'est tout le temps des loyers qui sont surfaits, étant donné que c'est tout le temps des loyers des appartements meublés. Bon, ils sont pas meublés, il y a un lit et deux fauteuils, un point, c'est tout. Mais disons que la personne qui a ce studio le louera 210 francs à la régie et va vous le relouer 700 à 800 francs. C'est tout.
Pendant que vous travaillez, il existe une solidarité entre vous s'il y a un problème, s'il y a une agression, s'il y a un client qui vous menace?
Il y a deux rapports, ça veut dire des rapports professionnels, ça veut dire que si ma voisine elle monte plus souvent que moi, je suis énervée. Mais par contre, si je suis dans mon studio et qu'elle gueule, je vais pas dire « Oh, c'est bien fait pour sa gueule, elle a bien bossé ». Si moi j'ai la clé de son studio, donc je travaille dans une maison où il n'y a que des prostituées, et puis j'ai la clé de quelques voisines. Eh bien, si j'entends ma voisine gueuler ou qu'elle m'appelle, je ne vais pas dire que c'est bien fait pour elle, elle a plus travaillé que moi. Elle m'appelle, je vais vers elle. Et puis si c'est un client un petit peu trop important, moi je cherche encore d'autres copines. Et puis moi, si je sens qu'un client, ça tourne un petit peu mal, j'attends pas de prendre une baffe. J'ouvre ma porte, puis j'appelle les copines, puis il y a tout de suite 4 ou 5 copines dans mon studio. Donc, à partir du moment où on est dans le besoin, elles ne réfléchissent pas. Elles ne disent pas, oh, machine ci, machine ça, ou je ne sais pas quoi. À partir du moment où j'appelle, où je demande de l'aide, elles viennent tout de suite.